à voix nue. Toute cette semaine, Lucille Comeau rencontre Emmanuel Krivine. Ce soir, adolescence d'un virtuose. Bonsoir Emmanuel Krivine. Hier, nous avons évoqué votre enfance, vos débuts musicaux, au violon, au conservatoire. Je voudrais maintenant parler surtout de cette période de transition entre le conservatoire, précisément à Paris, et ce moment où vous basculez, si on peut dire, dans la direction d'orchestre. Alors, vous sortez du conservatoire de Paris à 16 ans, 3 ans après y être rentré. Quel violoniste vous étiez à ce moment-là, en sortant du conservatoire ?
Oh, j'étais... comme les violonistes habituels, quoi.
Un peu meilleur, peut-être.
Non, j'étais bon, mais pour moi, pas extraordinaire, pour ce que je visais, très loin du compte. Non, on était tous sur le même modèle en ce temps-là. Et entre nous, ça continue un petit peu quelquefois maintenant à cause des concours et de cet amalgame qui a été fait entre le sport et la musique, quoi.
Ça veut dire quoi ? C'est une question de répertoire ? On joue tout le temps la même chose ?
Non, on est formé souvent pour être performant. Alors, par exemple, mesurer la hauteur d'un saut à la perche, mesurer le temps que vous mettez à traverser une piscine, mesurer un saut d'obstacle, ça se mesure. Donc, vous pouvez être de plus en plus performant. Mesurer dans un concours, deux façons de jouer ou trois ou 30 façons de jouer une chaconne de Bach et jouer des caprices de Paganini, comment vous mesurez ? Bon, or les critères sont les mêmes. Les concours internationaux sont nés de l'amalgame avec le sport. D'autres amalgames ont été faits, on pourra en parler à un autre moment, c'est par exemple un violon, un orchestre de nos jours, hein. Piano, hein, un instrument, bref, doit être performant. Performant. Il doit jouer fort, si possible, juste, rapide, tous critères qui sont de l'ordre de la technologie. Par exemple, qu'une fraise de dentiste doive être plus efficace qu'un outil au XVIIIe siècle. Je trouve ça très bien que maintenant on puisse arranger une dent mieux qu'au XVIIIe siècle. Mais qu'un violon ou qu'un archet doivent être plus performants maintenant qu'au temps de Mozart, je ne vois pas la comparaison. Or, c'est un peu comme ça notre monde. La preuve, dans un monde un tout petit peu normal, duquel je fais partie d'ailleurs, vous entendrez très souvent « Oh là là, c'est la Rolls des orchestres ». Tout le temps, vous entendrez ça, même dans votre métier. À la radio, vous entendrez la Philharmonie de Berlin, c'est la Rolls des orchestres. Mais moi, je me demande pourquoi on n'affiche pas dans un garage, ça c'est la Philharmonie de Berlin, des voitures. Bon, comment ça se fait qu'on dit c'est la Rolls des orchestres ? Donc c'est qu'il y a eu une connotation étrange qui a été faite là. Bon, c'est toujours l'histoire de la matière et de... bref.
Pour autant, vous avez croisé quand même des professeurs de violon très différents les uns des autres, des professeurs qui avaient un son particulier, je ne sais pas si on peut dire ça, je pense à Yehudi Menuhin par exemple, que vous avez eu un temps comme professeur. Qu'est-ce qu'il vous a enseigné lui, par exemple, pour prendre un de vos professeurs un peu au hasard ?
J'ai eu des professeurs intéressants, oui, j'ai eu des bons professeurs intéressants, d'autres moins intéressants. Et Schering, par exemple, Heinrich Schering, c'était par imitation. Donc on le regardait jouer, puis c'est tout. Mais ma foi, on pouvait glaner pas mal, par capillarité, oui. Menuhin, j'ai fait peu de leçons avec lui, mais il était très intéressant dans l'analyse des choses et dans le fait qu'il était bénéfique comme gars. J'ai appris beaucoup d'un monsieur qui s'appelait Charles Haug, qui est mort il y a longtemps, qui était en fait un espèce de philosophe, un Allemand complètement perdu à Paris. très très sadique, très vilain, mais très utile sur le plan de l'exigence. Donc il vous mettait un cadre de fer, et pour un mec comme moi qui partait dans tous les sens, qui ne savait pas s'il veut être ci ou ça, quel métier, quel rien, bon, donc c'était bien d'avoir un cadre de fer en un sens.
Qu'est-ce que vous aimiez jouer à ce moment-là, Emmanuel Krivine, au violon ?
Ah, moi j'aimais jouer tout ce qui était... tout ce qui était le plaisir du violon, c'est-à-dire la digitalité, la facilité, l'acrobatie, la... bref, le klezmer, se faire plaisir sur un violon, c'est très, très...
Paganini ?
Oui, Paganini, tous ces trucs-là, mais je jouais moins bien qu'un gars comme Amoyal, en ce temps-là, par exemple, était beaucoup plus doué que moi. Et d'ailleurs, à telle enseigne que quand j'ai rencontré une dame qui m'a proposé d'enregistrer pour deux gramophones, carrément toutes les sonates de Beethoven, je lui ai dit « allez voir plutôt un tel ». Bon, chaque fois qu'on me proposait un disque, je disais aux gens « allez voir un tel, il joue mieux que moi ». Ce qui fait qu'en ce temps-là, je n'ai pas fait de disque. Mais bon, non, j'aimais jouer le violon bien vécu, c'est réellement la prolongation du corps. Et même encore mieux vécu, c'est le corps qui est la prolongation du violon, en fait. Et donc... si vous voulez, en dehors de l'ingrédient souffrance qu'il y a dans le violon et tout le paquet familial qu'on met dedans, qui arrive à beaucoup de violonistes, entre nous 8 sur 10 au moins, je pense, quelque chose comme ça, eh bien, c'est quand même très chouette. C'est, comme on dirait maintenant, c'est très physique. Et, mais j'avais pas, si vous voulez, j'avais pas du tout l'approche culturelle que j'ai eue après grâce à la musique de chambre et à l'orchestre et à tout ce monde-là, et grâce à ma femme depuis quelques années, l'approche de l'instrument d'époque, j'avais pas tout ça. En ce temps-là, j'étais un mini-sportif, plus ou moins bon, qui courait, et au lieu de courir, il joue du violon. Et il sait pas pourquoi. Tout ça pourquoi? Parce que c'est une tradition. Et... je ne suis pas contre la tradition.
Alors, après le conservatoire, vous quittez Paris pour la Belgique. C'est une période que vous dites très fructueuse sur le plan intellectuel. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de quitter Paris à ce moment-là? Pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvé en Belgique,
Emmanuel? Parce qu'en Krivine, ce temps-là... Pardon, je vous ai coupé.
Je vous
pardon.
En prie.
Non, parce qu'en ce temps-là, on était dans un temps où rien n'était prévu. Et si vous voulez, quand vous sortiez du conservatoire de Paris, vous n'aviez rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle un cursus. Il n'y avait rien. On était dans la nature. Donc, voilà. Ils ont cherché, ma famille a cherché où je pouvais aller. Et je me suis retrouvé à Bruxelles parce que j'avais des cousins là-bas qui avaient dit « Tel prof a des résultats au concours Elisabeth. » Vous entendez bien le critère, là? Ils sont tombés dedans, moi avec, hein, mais je répète, j'étais pas très adulte en ce temps-là. Moi, j'avais 16, 18, 17 ans par là, 17, 18. Mais j'étais vraiment pas mature. Un enfant de 18 ans maintenant n'est pas comme ça en principe. Ils ont trouvé un prof en disant, il a de bons résultats au concours Elisabeth, il faut aller chez lui. Bon, ce serait maintenant, hein, par exemple. On me dit... envoie telle personne chez tel prof, il a de bons résultats au concours Elisabeth. Je dis, surtout n'allez pas là. N'allez surtout pas là. Parce que c'est une usine à trucs. C'est du sport, on n'est pas dans la musique. Ça ne veut pas dire que le concours Elisabeth n'est pas engendré de gens très bien. Attention à vos bébés et l'eau du bain. Hein. Philippe Hirschhorn, des tas de gens. Hein. Martha elle-même, je crois, le concours de Varsovie, Martha Argerich. Bon, un concours comme instrument, comme... un concours, si tu t'en sers comme moyen d'eux, ça va. L'ennui, c'est qu'en ce temps-là, j'étais dans l'identification. Et pas mal de gens de mon âge. On y croyait au concours. On n'avait pas ce recul qui est, bon, j'y vais, ça servira de tremplin, on m'entendra. Moi, j'étais pas comme ça. Je marchais dans toutes les conneries.
Vous rentrez à Paris en 1968. À quoi ressemble votre mai 68 à vous, Emmanuel Krivine?
Mais d'abord, en Belgique, j'ai pu connaître des choses très intéressantes. Nous avions des types avec plein de gens intéressants en Belgique. Et c'est moi, j'y ai passé 65-68 dans ce bouillon de culture, où j'étais très loin des préoccupations de mai 68. Ce qui fait que, si vous voulez, je n'ai pas du tout connu tout ce qui s'est passé en 68. Je ne l'ai connu qu'après. Bon, mon petit cousin... Alain Krivine, lui, était, comme vous le savez, mouillé là-dedans avec Cohn-Bendit, et c'était des types pas bêtes du tout, faut
reconnaître. Vous étiez en contact à ce moment-là avec lui ?
Non.
Je sais que vous aimez pas trop parler de votre cousin Alain Krivine.
Non, parce qu'il m'intéresse pas vraiment. Je trouve qu'il met son intelligence immense au service de trucs sur rail. Ça m'énerve un peu, tandis que je trouve que Cohn-Bendit me semble plus libre. Me semble plus libre de sa pensée. Bon, Krivine est très intéressant, c'est un mec génial, mais pourquoi il met ça au service de choses sur rail? Je trouve ça un peu dommage, parce qu'il est vraiment intéressant.
Être chef d'orchestre, c'est un rôle éminemment politique, au sens large du terme politique.
Oui.
C'est un rôle de rapport de force, de mise en place d'une communauté. Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel Krivine?
Non, normalement, non. Normalement, non. Il se trouve que c'est comme ça, mais si les choses étaient bien faites, le chef serait un conducteur. Donc, il est là pour conduire la musique. Là, il est l'oreille témoin. L'oreille témoin, moi, je dis toujours ça parce que j'ai réfléchi là-dessus. L'oreille témoin désirante. Je fais allusion aux machines désirantes de Deleuze Guattari dans l'Anti-Oedipe. Donc, c'est une oreille tiret témoin tiret désirante. C'est ça, un chef d'orchestre. Donc, le reste, c'est littérature.
Alors, on y reviendra.
Je voudrais citer on parlait de Krivine, là.
Une autre date un peu symbolique de ce point de vue-là. 1981, vous avez eu un accident de voiture qui vous a handicapé la main gauche. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je me suis endormi le 1er mai 81 au volant. Voilà. Donc, ça arrive à des gens très bien, la preuve. Et donc, voilà. Alors, je n'en dirais qu'une chose, c'est que, en ce temps-là, quelques années après, mon psychanalyste à Lyon, un mec qui était adorable, très chouette, m'a dit, la prochaine fois que vous aurez à choisir entre deux métiers, j'espère que vous n'aurez pas besoin d'avoir à nouveau un truc pareil pour vous choisir. Non, c'est clair que cet accident a été compliqué et en même temps salutaire. Mais c'est un énorme trauma et ça, c'est, on s'en remet jamais parce que un trauma, souvent, est pas fait pour s'en remettre d'ailleurs. D'ailleurs, je me demande si, mais c'est vrai que là, je suis dans autre chose. Vous savez, je suis un vieux caribou, enfin, un vieux singe. Donc, évidemment, il y a de la bouteille, comme on dit. Donc, forcément, je trie. Et je me demande si le trauma, faut chercher à le soigner. Je me demande s'il vaut pas mieux l'avaler, le digérer, le mastiquer, l'avaler, l'intégrer, que de chercher à le comprendre. Je ne suis pas sûr que dans la vie, il soit nécessaire d'expliquer, etc. Je suis plutôt convaincu... J'ai eu affaire très peu à un monsieur incroyable qui s'appelait François Roustan, qui s'occupe d'hypnose et qui est philosophe. Ouais, un monsieur très intéressant, fort âgé. Et si vous voulez, c'est un peu lui qui m'a amené ce que je vous dis là. Mais je le sens.
Est-ce que vous avez gardé votre ou vos violons, ceux que vous aviez à l'époque, ceux que vous jouiez à l'époque?
Non, je me suis débarrassé de tout immédiatement après mon accident. En 80-82, j'avais donné ma bibliothèque au Conservatoire de Lausanne. J'avais donné mes calibreurs de cordes. Je me souviens, j'en ai donné à Sitkovetsky. J'ai vendu Archer, violon, tout. Je me suis débarrassé de tout. J'avais plus rien. Absolument plus rien. Et maintenant, il est vrai que maintenant, on est longtemps après. C'était en 81. Quand j'accompagne un violoniste, il n'y a rien qui souffre. Moi, je suis ravi que ce soit l'autre qui joue.
Alors justement, ça m'arrange très bien. J'étais curieuse de ça. Vous avez notamment gravé un concerto que vous aimiez beaucoup jouer, le concerto numéro 2 de Bartok, avec Teddy Papavrami, je crois, au violon. Qu'est-ce que ça fait de diriger ça? Quelque chose dans lequel vous excelliez à l'époque? Aucun regret?
Aucun conseil, c'est très agréable parce que... Si, non, mais c'est les conseils, oui, tout ce qu'on veut. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que maintenant, je joue du violon par personne interposée. Quand j'accompagne un soliste, je le dérange pas. En même temps, je connais très bien ce qu'il fait parce que c'est mon métier. Et donc, pour moi, c'est très chouette. Et il n'y a aucune frustration, rien. Je suis ravi que ce soit l'autre qui joue. Mais j'essaye pas d'imprimer quoi que ce soit. Il joue comme il joue. Mais il est vrai... Pour être honnête, il est vrai que je préfère accompagner des gens avec lesquels je suis en affinité musicale que des violonistes auxquels je comprends rien, ça c'est vrai.
Il y en a auxquels vous comprenez rien.
Ah oui, il y en a un paquet, oui. Mais il y en a plein avec lesquels je m'entends très bien, il y en a plein, même très divers. Très divers, ça dépend de ce qu'ils jouent. J'essaye, chaque fois que j'accompagne un violoniste ou tout soliste, j'essaye surtout de voir l'adéquation œuvre-soliste. Pas mettre n'importe qui dans n'importe quoi. Qui jouera bien le Brahms pour moi? Qui sera bon dans Mozart? Pour moi, qui sera... Voilà, c'est ça qui est important. C'est tout le monde ne fait pas tout bien. Moi, je suis très limité dans mon répertoire. Il y a des tas d'œuvres que je sabote ou auxquelles je comprends rien. Il y en a même que j'aime. Moi, je dis toujours qu'il faut séparer ce qu'on aime et ce qu'on fait bien. Il faut essayer de faire très attention aux critères. Moi, il y a des choses que j'adore et que je conduis comme un imbécile.
Alors, vous dirigiez déjà des orchestres avant l'accident, hein, avant 1981. Par exemple,
oui.
En 1975, vous dirigez l'Orchestre Philharmonique de Radio France, c'était à Montreuil. Vous jouiez Mozart, Tchaïkovski et Wagner. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce concert-là, qui a été un des premiers pour vous, à la direction, Emmanuel Krivine?
Ben, je vous en parlais tout à l'heure, à propos de Mozart, Tchaïkovski, du poids de l'archet, c'est ça. Quand vous conduisez pendant plusieurs jours et que vous jouez en même temps... Le métier de chef, enfin, c'est pas un métier, c'est tout sauf un métier. Bon, déjà. Le job, non plus. D'être chef, conducteur, fait que vous remuez les bras sans vraiment conscience, du moins en ce temps-là. Du moins en ce temps-là. Et ça part dans tous les sens parce que vous marchez à l'oreille, et tant mieux, et tant mieux. Hein, Richard Strauss le dit dans Conseil à un jeune chef d'orchestre, quand il a 83 ans, il dit « Conduis avec l'oreille et pas avec le bras, virgule, tout le reste va de soi ». Bon, donc je faisais ça comme ça, mais en pire. Et donc ça, vous n'êtes pas disponible au violon, à la pratique du violon, parce que votre bras n'est pas sensible, est fatigué par le... On ne peut pas cumuler, c'est quasi impossible. Vous faites ou mal ou l'un ou l'autre, et c'est évidemment le truc le plus précis qui souffre, c'est-à-dire le violon. Et ce concert, c'était très intéressant parce qu'on m'a mis le pied à la direction d'orchestre alors que j'étais autodidacte. Et ça, c'était un gars à l'époque très courageux qui s'appelait Voslinski, qui a été directeur de la musique à la radio, à l'Orchestre Paris, etc. C'était un type très intéressant qui m'a mis le pied à l'étrier en direction d'orchestre, mais peut-être trop tôt. C'est un peu comme les gens qui... Alors, on dit qu'ils ont raison. Moi, je me dis que ça dépend de qui vous avez en face, mais qui pousse un enfant qui ne veut pas aller dans l'eau, il le pousse dans la piscine et il se débrouillera. Bon, ça peut créer un trauma à vie, un dégoût de l'eau, tout, mais ça peut aussi faire que le petit se débrouille. Ça dépend comment il est organisé lui-même avec la vie. Bon, moi, on m'aurait fait ça, vu comment j'étais autrefois. On me met dans l'eau, je peux plus même entendre le mot « eau ». Mais vous avez, par exemple, un canard ou une grenouille, vous le poussez dans l'eau, ça va marcher. Bon, donc voilà, il faut sentir les enfants. Bon.
Vous, avant de diriger, vous avez aussi été violoniste dans la fosse, dans l'orchestre. Quel violoniste vous étiez-vous dans un orchestre?
Alors ça, j'adorais ça. Ça, j'adorais ça, parce qu'il n'y avait plus la performance... On ne court plus pour les autres, j'étais plus obligé de réussir quoi que ce soit, ni de plaire, ni de déplaire, rien. Je faisais partie d'un groupe, j'étais couvert, tranquille. Et là, l'oreille pouvait fonctionner. J'étais tout en horizontalité. L'oreille entendait exactement comme sa position, c'est-à-dire horizontale. Elle était traversée, on est traversé par l'écoute. Alors en orchestre, c'était... Pour moi, des expériences merveilleuses. Je remplaçais à l'opéra comique, dans plein d'orchestres, à partir des années 70, 70. Et là, j'ai eu des grands bonheurs. Et je crois que tout chef d'orchestre doit avoir mariné dans l'orchestre. Ça fait le plus grand bien. Mazel me le disait d'ailleurs, Laurine Mazel. Non, c'est l'immersion en orchestre. C'est très intéressant parce que vous n'êtes pas, guillemets, responsable. Mais vous participez à quelque chose de merveilleux sans être exposé mentalement. Et cette non-exposition permet de ressentir. La surexposition du soliste, devoir être performant, fait que ça peut être stressant.
Il y a eu une rencontre, Emmanuel Krivine, dans votre vie de jeune chef qui a été déterminante. C'est une rencontre avec Karl Böhm, je crois que c'était à Salzbourg. Dans quelles conditions est-ce que vous vous étiez rencontrés? Qu'est-ce qu'il vous avait dit à ce moment-là? C'était déjà un vieil homme?
Oui, très âgé, oui. C'était en 65. Ben, j'ai assisté à un concert, je crois que c'est la 7e Bruckner avec Vienne. Vienne et Karl Böhm à Salzbourg, où moi j'étais pour un cours de violon, là. D'ailleurs, ça n'allait pas fort parce que mes parents m'avaient emmené et c'était la première fois qu'ils allaient dans ces régions-là depuis avant-guerre. Là, c'est 20 ans après la guerre. Donc, comme on dit maintenant, je vous raconte pas l'ambiance. Ils étaient dans un sale état, ne serait-ce que quand ils ont vu les douaniers qui étaient dans la même couleur que les gens, la même couleur d'uniforme que ceux de la guerre. Donc, ils étaient complètement, extrêmement angoissés. Et moi, j'étais là. Alors, c'est étonnant que je sois allé sans le savoir, mais alors qu'est-ce qu'il savait et ne savait pas en moi, je ne sais pas. Pourquoi je suis allé vers un type qui avait appartenu au parti nazi, c'est curieux. En même temps, j'étais fasciné par le conducteur, par le chef, et j'avais déjà, je me souviens, acheté à la braderie, je me souviens, dans une braderie, le donjon est-il de Strauss avec lui. C'est aussi quand même la même semaine où j'ai voulu me jeter dans la salsa parce que j'avais raté un trait au violon. C'est l'histoire de Vatel avec son plat, là. J'avais raté le trait final d'un truc qui s'appelle Concertino de printemps de Darius Milhaud. Bon, là, j'ai tout foiré à gauche, main gauche. C'était très sale ce que j'ai fait. Et je suis allé longer la Salzach, qui est la très belle rivière qui est là, à Salzbourg, pour savoir comment je me jette dedans, tout ça. Ben, j'avais raté un trait de violon qui dure 4 dixièmes de seconde à peu près. Bon, donc vous voyez où j'en étais avec la notion de performance au violon. Et ma mère avait appelé les flics et tout ça parce qu'on ne me trouvait pas. Évidemment, je longeais la Salzach et comme tout pseudo-romantique, je ne me suis pas jeté dedans, évidemment. Bon, alors donc c'est là que je rencontre Carl Böhm. Et ce Carl Böhm, ben, j'ai cherché à le revoir après, c'est tout. Moi, la rencontre, c'est plutôt d'avoir vu de la très belle musique, très bien jouée avec des gens très compétents, tout ça, dans ce Grosses Festspielhaus. Première fois de ma vie, si vous voulez, que je voyais un très bon orchestre en situation de très bonne salle, etc. Et c'est ce qui m'a, si tu veux, incité à mettre le pied dans la direction d'orchestre, dans l'action, pas comme spectateur, c'est tout. Je me suis dit, bon, c'est possible, ça existe, voilà, on peut faire ça. Et voilà, après, quand j'ai vu Carl Böhm d'autres fois, c'était pour parler partition, etc. C'est pas ça qui est important. Ça m'a incité à faire. C'est même pas le bonhomme, hein. Ça m'a incité à faire le pas vers la direction d'orchestre.
Ça sonnait comment un orchestre avec Carl Böhm à la direction?
Ah, mais même sans Carl Böhm. Moi, ça sonnait très bien. C'est un type qui savait ce qu'il faisait. Il était assistant de Richard Strauss. En bref, vous connaissez le produit. Mais le Wiener Philharmonique, évidemment, ça sonne tout seul. Et la septième Bruckner, c'était un enchantement, évidemment. Et j'étais aussi allé, pendant cette même période, allé assister à Ariadne auf Naxos, Ariane à Naxos, de Strauss, qui est une merveille. Bon, c'est là aussi que j'ai joué dans un cours, c'était un cours d'été, et là j'ai joué, ça m'a valu mon premier engagement comme violoniste avec un chef allemand, je ne sais plus où c'était, bon, un trou en Allemagne, sinistre comme souvent là-bas, mais bon, ça m'a valu ça. Ce qui a été intéressant, c'est pourquoi un petit gars plus ou moins judéo va vers une figure qu'il ignore être nazi, mais qu'il n'ignore peut-être pas dans l'inconscient l'être. C'est curieux. Ça me fait souvent penser à ce qui m'a semblé être souvent ce qui m'a semblé être souvent le moteur, la chicane, le déclencheur de ce qu'on appelle être collabo, de ce qu'on appelle être collabo, qui est tu peux pas boxer, t'es un boxeur en face ou un gros cogneur, un gars vraiment solide, hein, qui boxe ou un gros boxeur, tu l'es là et tu peux pas boxer. De quelle manière on prend le moins de coups? C'est en se mettant contre lui. Pas à distance. On se met contre lui, un peu comme si un enfant se réfugiait contre sa mère, sauf le gars, il est là pour vous cogner. C'est la différence. Bon. Et donc, on se met vers le cogneur, contre le cogneur, et c'est peut-être ça qui, quelquefois, est le grain qui a fabriqué les collabos. Je peux imaginer, par exemple, certaines personnes qui sont tentées d'adhérer au FN. FN, c'est un parti, hein, en France, qui s'appelle Front National, ça s'appelle. Eh bien, Pourquoi certaines personnes, on comprend, bon, évidemment, on comprend tout, on n'est pas idiot. Et certaines personnes, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire vers ça? Pourquoi il y va? Ben, souvent, c'est cette image qui me vient. Tu te mets contre le boxeur, ça évite qu'il te démolisse. Donc, tu y vas, tu prends ta carte, comme ça, tu crois faire partie de ce qui te fait peur.
Emmanuel Krivine, j'ai lu quelque part que vous jouiez le soir de la dernière séance de la Callas à Paris. Est-ce que c'est vrai, cette histoire?
J'étais dans ce qu'on appelait en ce temps-là les phonos, ça se faisait à la salle Wagram, entre autres. Il y avait la marque EMI, Pathé Marconi, EMI, EMI, et c'est là qu'elle a craqué. Pendant cet enregistrement, moi je faisais partie des violons, j'étais comme ça, en supplémentaire, enfin. C'est toutes ces collaborations dont je vous parlais quand je participais à l'opéra et opéra comique, tout ça. J'ai découvert plein d'œuvres comme ça. Et la Callas, là, a eu son. Elle n'a pas pu finir cet air. Ça a été effrayant. Et moi, je découvrais ça. Je me suis dit, elle était en vison. Là, elle chantait devant nous, bah, au micro, évidemment, dans son vison. Et c'était très impressionnant pour un jeune comme ça de voir cette personne qui craque. C'était très impressionnant. Curieusement, parce que le monde est petit, je me suis retrouvé plus tard, des années après, chez l'agent, enfin impresario, qui est l'un de ceux qui l'ont fait craquer. C'est-à-dire, au lieu de lui dire retire-toi, ben, ces gens ont été, ben, on revient au point de départ, comme vous savez, les choses sont souvent cycliques dans le discours. Je vous parlais du petit qui est comme un cheval qui court pour la famille. Bon, ben, la Callas, elle courait pour les agents, pour les gens qui faisaient du beurre sur son dos. Et donc, au lieu que tous ces braves gens lui disent « Arrête-toi, tu en peux plus », ben, il continue à faire du beurre sur son dos.
Merci Emmanuel Krivine, on reprendra cette conversation demain soir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Lucille Como avec Emmanuel Krivine. À voix nue, attaché de production Claire Poinsignon, prise de son Étienne Leroy, réalisation Laurence Millet. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.